Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me titille, qui me taraude, qui me passionne. Et en fait, j'ai ressenti l'envie de vous en parler après être tombé sur une publication sur Facebook. Donc, je vous explique un peu la situation. Un de mes contacts sur Facebook, qui s'appelle Shuaib Malik, il est enseignant en sciences dans les Émirats. Et il enseigne la chimie organique, ce genre de choses. Un public d'étudiants en études supérieures. Et il a reçu un mail d'une maman. Il a publié la capture d'écran de ce mail en masquant un peu l'identité de la maman, peu importe. En tout cas, ce que disait le mail, c'était que cette maman s'inquiétait parce que sa fille a entamé des études de microbiologie en études supérieures. Et sa fille commence à avoir des doutes par rapport à l'islam, avec ce qu'elle apprend. En microbiologie, en génétique, etc. Et cette maman est un petit peu désespérée et appelle à l'aide parce que elle dit que sa fille est tout simplement en train de quitter petit à petit le giron de l'islam. Donc voilà, ça touche à la question. Comme je l'avais dit dans le vocal précédent, il y a toute une série de questions que j'aimerais traiter dans le critérium. Et ça, c'est un petit peu le deuxième sujet, celui de l'interface entre la science et l'islam. D'ailleurs, je pense avant-hier, il y a 3 jours, j'ai publié sur Instagram une story dans laquelle je disais que lorsque les athées, les scientistes, avec la science, se servent de la science comme d'un bâton pour taper sur les religions et notamment sur l'islam, la réaction logique qu'on devrait avoir, ce n'est pas de voir la science ou la méthodologie scientifique comme l'ennemi de l'islam, mais plutôt de reprendre ce bâton parce que c'est à nous qu'il revient. Et j'ai eu beaucoup de likes sur cette story, je pense que c'est la story qui a été le plus likée de l'histoire des critériums sur Instagram. Et ça m'a interpellé parce que je me suis dit que quand on parlait de l'importance de la science et de la méthode scientifique en général, on est tous d'accord. Alors qu'on voit bien que dans la pratique des choses, quand on s'intéresse véritablement aux découvertes scientifiques, il y a toute une série de problèmes qui sont soulevés avec différents types de réactions. Moi, je pense que classiquement, il y a 3 types de réactions que je vois qui sont problématiques par rapport à des découvertes scientifiques qui posent question. On a des cas extrêmes comme le rejet de l'islam, tout simplement. Comme dans l'exemple de cette maman qui parle de sa fille, c'est pas le seul cas. Donc, on a des étudiants ou d'autres qui s'intéressent à la science, qui tombent sur des découvertes en géologie, en géographie, en biologie, que sais-je, en linguistique, en archéologie, you name it, et ils se posent des questions, ils se disent non, ça fait pas sens. Je pense que l'islam n'est que finalement la déclinaison, l'énième déclinaison de toutes les religions qui ont parsemé l'histoire de l'humanité, et je vois pas pourquoi est-ce que je devrais rester musulman. Je préfère rester dans ce que la méthode scientifique montre comme étant certain, etc. Voilà, donc ils partent de l'islam. Vous avez deuxième type de réaction qui est aussi un peu extrême, hein, c'est le rejet de la science, de la méthodologie scientifique, avec cette espèce d'anti-intellectualisme que l'on voit. Il y a des cas qui sont caricaturaux, comme certains frères, notamment qui rejettent l'astronomie, qui rejettent la théorie de la gravité, qui rejettent le fait que les astres et les planètes sont des corps tridimensionnels qui se présentent généralement sous la forme de globes. Voilà, hein, on est des, comment on dit? On est des globulistes pour eux, je ne sais pas comment ils disent. Et nous, on les appelle des platistes. Enfin voilà, donc ce sont des cas caricaturaux, mais il y a beaucoup de domaines de la science qui présentent ce type de problème, notamment en médecine, et pas que. Donc voilà, il y a comme 2 positions extrêmes, rejeter l'islam, rejeter la science. Il y a aussi une autre position dont j'ai déjà parlé longuement, celle du concordisme, c'est-à-dire celle qui consiste à se dire, je sais pas trop comment gérer cette dissension, cette dissonance, alors on va juste prendre la découverte scientifique, on va essayer de la tordre pour la faire rentrer dans l'islam, ou on va essayer de tordre un verset ou un hadith pour faire rentrer ça. Et donc ça, ce sont tout autant de positions qui montrent qu'il y a un souci parce que, et c'est normal, quand il y a des découvertes scientifiques qui ont l'air d'être contradictoires, c'est difficile à gérer, ça crée une dissonance cognitive. Alors que finalement, on pourrait se dire que ces contradictions ne sont peut-être pas des contradictions. Ça peut être tout simplement des paradoxes. Pourquoi j'utilise le terme de paradoxe? Ben, un paradoxe, c'est une contradiction apparente. C'est-à-dire que ça a l'air d'être une contradiction, mais si on éclaire le problème, si on le voit sous un autre jour, si on a plus d'éléments pour traiter de ce sujet, on se rend compte que ça avait l'air d'être une contradiction, mais ça ne l'était pas véritablement. Ou bien, on peut se rendre compte que la découverte scientifique en question, ben, elle était fausse, quoi. Et que, en fait, en vérité, un exemple pour moi qui est important, c'est celui de l'univers. À la belle époque d'Einstein, 1905, hein, quand il fait ses articles, etc., à cette époque-là, le consensus était que l'univers était infini, éternel, et que c'était que les objets physiques à l'intérieur de l'univers, donc les planètes, les galaxies, les poussières, tout ça. Il n'y avait que ça qui était un objet physique. Il a fallu attendre les années 20, 30, 40 pour se rendre compte que l'univers avait également une histoire. Donc les musulmans de l'époque d'Einstein, de sa jeunesse, pouvaient se dire comment est-ce que je concilie le fait que l'univers était une création, n'est pas éternelle et infinie. Comment je concilie cela avec les découvertes scientifiques? Et en fait, c'était une contradiction apparente, puisque dans les années qui ont suivi, on a découvert que l'univers était un objet physique. Bah, ça, c'est juste un exemple. J'ai envie de citer un autre exemple qui est intéressant pour moi, c'est le hadith sur la taille de Adam alayhi salam. Vous savez, il y a un hadith qui est dans les Sahihain, qui est dans les deux grands recueils authentiques, que sont le recueil de Bukhari et le recueil de Muslim, rahimahumullah. Et ce hadith dit en substance la chose suivante: Adam fut créé par Allah avec une taille de 60 coudées. Donc une coudée, c'est la taille qui va du cou jusqu'au poignet ou au doigt, je sais plus, mais en gros ça fait un demi-mètre, donc 60 coudées, c'est 30 mètres. Okay. Et à la fin du hadith se termine par mais la taille des humains n'a cessé de régresser depuis. Donc l'idée est que Adam alayhi salam faisait en gros une trentaine de mètres et que génération après génération les tailles ont régressé jusqu'à atteindre la taille qu'on connaît aujourd'hui. Donc devant ce type de hadith, on peut être tout à fait étonné et se dire comment est-ce que je concilie ce que me dit ce hadith qui est dans les authentiques, hein, qui est considéré comme authentique, et ce que nous disent les disciplines comme l'histoire, comme l'archéologie, tout simplement parce que on n'a jamais découvert de squelettes de géants. Et d'ailleurs, les squelettes de géants qu'on voit parfois dans des photos, c'est des fakes. Hein, vous pouvez regarder sur internet, mais c'est un concours de photographie. Donc il fallait faire. Il fallait faire des fakes. C'était le meilleur fake avait le prix du concours. Et ensuite, ces photos ont été détournées par des sites chrétiens, puis par des sites musulmans pour dire, regardez, on a trouvé des géants, etc. Ce type de hadith peut aussi contredire ce qu'on sait de la biophysique, parce qu'un homme de 30 mètres sur Terre avec la gravité terrestre, on ne voit pas trop comment ça peut être possible. Avec un diplodocus sur quatre pattes très larges, une très longue queue, un très long cou pour faire un contrepoids, on voit un petit peu comment ça peut marcher. Par contre, avec un humain, s'il est la même image que nous, 30 mètres de haut, ça paraît très 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 difficile à concevoir. Donc on peut avoir différents types de réactions, comme celle que je vous ai citée tout à l'heure. L'extrême 1, c'est rejeter le hadith, dire je rejette le hadith, voire je rejette la sunna. Je suis tombé, en faisant quelques petites recherches, sur un site coraniste qui rejetait le patrimoine d'Ahl sunna sous prétexte que ce hadith montrait bien que les sunna, que les hadiths n'avaient pas de sens. Et donc, certains peuvent aller jusqu'à rejeter tout simplement l'islam, puisque si on rejette des hadiths sous prétexte que ce qu'ils disent dedans contredisent les découvertes scientifiques, on peut très bien avoir la même démarche avec le Coran. Et une fois qu'on dit que le Coran n'a pas de sens, alors on rejette l'islam, et puis voilà. Donc ça, c'est le premier extrême. Et puis avoir un autre type d'extrême qui consiste à rejeter l'archéologie, la paléontologie, dire ce sont des deux disciplines qui sont fondées sur du faux, elles sont là pour nous amener vers l'athéisme, etc. Et donc, c'est aussi une réponse extrême. Au moins, on reste dans l'islam, alhamdoulilah, c'est une meilleure réponse que la première réponse, mais c'est une réponse qui consiste à faire la politique de l'autruche, à ne pas vouloir voir la science et les découvertes et les faits. On est dans l'ordre du factuel. Et puis avoir, évidemment, le troisième type de réponse consiste à être concordiste, donc à essayer de faire rentrer l'un dans l'autre, par exemple en accordant du crédit à des fausses découvertes sur ces fameux faux géants-là, et à se dire, regardez, en fait, en paléontologie, on découvre des choses qui montrent que Adam alayhi salam avait bien cette taille, etc. Donc ce sont tous des types de réponses qui posent problème. Évidemment, la réponse qui consiste à quitter l'islam, c'est la plus problématique. En fait, je prends cet exemple de hadith parce que il y a un jeune talib al-ilm qui s'appelle Montassir Zaman, qui est étudiant en Afrique du Sud, et on lui a posé un jour la question. Donc, sur YouTube, il raconte dans une longue interview passionnante, il raconte qu'on lui a posé la question, voilà, Oustad, ce hadith, comment est-ce qu'il faut l'appréhender? Et il dit que, ben voilà, il veut répondre. Donc, il travaille à la bibliothèque une après-midi, il se dit qu'en une après-midi, ça va être plié. Et puis, c'est passé à 2 après-midi, puis c'est passé au week-end, et puis c'est passé à 2 semaines, 3 semaines, et pendant 2, 3 années, il n'en est pas sorti. Il n'en est pas sorti parce que ça l'a passionné, et s'est rendu compte que, bah, évidemment, ça soulevait des questions multidisciplinaires, transdisciplinaires, l'épistémologie, les sciences, l'archéologie, le statut des Sahihain. Donc le statut des recueils, des 2 recueils de Muslim Bukhari, l'authentification des hadiths, l'évolution de la science du hadith, la question des Israïliyat, quel statut pour tous ces récits qui nous viennent des juifs et des chrétiens, et qui aussi apportent parfois des compléments d'informations sur l'histoire d'Adam, etc. Comment est-ce que il faut les appréhender, ces récits? Et en fait, Montassir Zaman, ce jeune étudiant, nous dit que cette question, elle s'est posée également à l'immense, le savantissime commentateur du Sahih Bukhari, qui est Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah. Et dans son commentaire de ce hadith, Ibn Hajar dit la chose suivante notamment. Il dit, en commentant la partie qui dit la taille de la création ne cesse de rétrécir, il dit de même que l'homme grandit petit à petit et que ce n'est pas visible d'une heure à l'autre ou d'un jour à l'autre, mais seulement après de nombreux jours, bah le rétrécissement est similaire. Mais il reste un point inexpliqué. On trouve aujourd'hui des vestiges des peuples précédents, comme les demeures de Thamoud. Or, ces vestiges ne montrent pas que la taille des habitants était très grande, comme cela devrait l'être d'après l'ordre d'apparition des peuples. Et nul doute pourtant que c'est un très vieux peuple et que le laps de temps entre Adam alayhissalam et ce peuple est bien inférieur que le laps de temps entre les Thamoud et le premier de notre communauté. Donc voilà, il y a Ibn Hajar qui est un commentateur, le commentateur par excellence des hadiths rapportés dans le recueil de Bukhari. Et Ibn Hajar montre qu'il y a une contradiction entre ce qu'il voit lui de ses yeux, puisqu'il a visité, il a vu le puits de Thamoud, les portes de Thamoud, donc un peuple qui est cité dans le Coran comme un peuple qui a transgressé, qui a été puni par l'Allah. Et ce peuple-là, qui est un vieux peuple, semble avoir des portes et des puits qui correspondent exactement à la taille de Ibn Hajar lui-même. Et donc, comment concilier cela? Et alors, la dernière phrase d'Ibn Hajar, elle est vraiment extraordinaire parce qu'il conclut en disant « Et je n'ai toujours pas trouvé de réponse à ce problème. » Point final. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il passe au hadith suivant. Voilà. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans cette attitude qui nous montre une leçon. C'est d'ailleurs résumé par les savants sous le terme de « tawaqquf ». Donc la racine qif là qui signifie qaf qui signifie stop comme dans les routes au Maroc qaf le mot qui signifie stop bah tawaqquf c'est le fait de s'arrêter de suspendre son jugement de ne pas aller plus loin quand on ne sait pas aller plus loin. Et on n'est pas face à n'importe qui, on est face à un grand savant qui est un des grands commentateurs des hadiths et qui encore aujourd'hui fait référence. Et donc cette attitude montre quelque chose d'assez extraordinaire pour moi, c'est que la meilleure façon de faire lorsqu'on voit des contradictions, ce n'est pas de rejeter ce que mes yeux ont vu, c'est de ne pas rejeter la factualité. Si je vois que les puits des peuples de Thamoud sont de la même taille que les miens, je ne vais pas dire ce que je vois est faux. D'autre part, si je vois un hadith et que ce hadith semble, comment dire, respecter les canons de la science de l'authenticité des hadiths, je ne veux pas rejeter ce hadith en bloc. Okay. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, il n'y a pas d'obligation à avoir une réponse authentique. Donc, la meilleure réponse, parfois, consiste juste à suspendre son jugement. Je pense que 50% de l'esprit critique, c'est suspendre son jugement. Il n'y a pas d'obligation à avoir une réponse. Et finalement, il me semble qu'il y a une raison qui explique pourquoi est-ce que des grands savants comme Ibn Hajar al-Balsas, c'est un exemple que je prends, font tawaqquf quand ils tombent sur tel verset, sur tel hadith, sur tel fait scientifique, c'est qu'ils ne se sentent pas en danger, en fait. Ils ne se sentent pas en danger, tout simplement. Bah, pour l'époque d'Ibn Hajar, c'est parce que quand vous faites partie d'un État islamique qui est un peu la lumière de l'Orient et de l'Occident, bah, il n'y a pas ce complexe d'infériorité qu'on peut ressentir lorsqu'on est sur les bancs de la faculté de l'université de Montpellier ou de Londres ou de que sais-je. Et que on baigne dans un environnement qui est finalement assez anti-religieux, assez sarcastique envers nos croyances vues comme étant des superstitions. Et donc on peut se sentir sommé finalement d'avoir une réponse, alors que on n'est pas obligé d'avoir une réponse. Et il ne faut pas se sentir menacé dans notre foi dès qu'une découverte scientifique semble dire quelque chose de différent par rapport à ce qui est dit dans un hadith ou par rapport à ce qui est dit dans un verset. Comprendre que parfois derrière une contradiction se cachent des paradoxes et réaliser qu'on sait très peu de choses. On sait très peu de choses et on ne saura. C'est un état duquel on ne sortira pas, même si on double, on triple, on décuple notre connaissance scientifique. Et aujourd'hui, par rapport au Moyen-Âge, on a décuplé, sans doute au moins décuplé l'état de nos connaissances scientifiques. Ça restera toujours très très peu. Donc, réaliser qu'on sait très peu de choses, c'est aussi avoir une espèce de quiétude du cœur et de l'âme. Et je dirais même que c'est en fait quelque chose d'assez exaltant, d'assez excitant de se dire, Subhanallah, ça fait depuis des millénaires que des milliards d'humains se posent des questions sur des sujets, qu'on parvient à élucider énormément de choses, mais qu'on restera toujours à un stade d'ignorance extraordinaire par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça nous pousse à être encore plus humbles envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers son omniscience. Donc voilà, il faut aussi comprendre que la certitude en islam, elle ne se base pas sur des branches, okay? On ne base pas une certitude sur la création, sur l'existence du créateur, sur les attributs du créateur, en se posant une question un jour sur, mais je comprends pas, il y a le hadith sur qu'est-ce qui fait qu'un gamète devient un garçon ou une fille. Ce hadith semble contredire ce que moi j'apprends dans mes cours sur les chromosomes, etc. Et sur base de ça, on remet tout en question. C'est pas une attitude qui est sérieuse. Voilà ce que je voulais vous dire un peu à travers ce vocal. C'est un petit peu un appel à la modestie, à la tranquillité de l'âme, à la tranquillisation de l'âme. Même de grands savants avant nous se sont retrouvés face à des contradictions qui ont l'air d'être incontournables. Il y a aujourd'hui tout un travail, notamment sur le hadith d'Adam alayhi salam, qui essaye de comprendre la complexité de la chose, de se demander est-ce que c'est la tête d'Adam alayhi salam au paradis, est-ce que la dégressivité s'est faite ailleurs, comment expliquer ceci, comment expliquer cela. On n'a pas épuisé le sujet, on n'épuisera peut-être jamais le sujet, mais qu'importe, la certitude, elle se construit ailleurs, elle se construit sur des preuves qui sont, elle, incontournable. Et c'est nous qui devrions dire aux athées et scientistes, voilà les gros problèmes scientifiques devant lesquels on devrait rester pantois. Tout simplement, par exemple, la raison de l'existence même de l'univers, la raison de la survenue de plusieurs messagers dans des peuples différents, dans des langues différentes, dans des pays différents, dans des époques différentes, avec le même message. C'est ça qui devrait nous faire poser des questions, et c'est ça qui devrait poser de gros problèmes aux athées, et pas des questions de branches scientifiques qui sont parfois juste liées à des contingences, c'est-à-dire qui évoluent d'une année à l'autre parfois. C'est pas ça qui devrait nous poser problème. Voilà, c'est juste une façon de lancer le sujet, c'est une façon de lancer le débat. Je ne prétends pas avoir épuisé évidemment la question, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des remarques à faire à ce sujet. Wallahu a'lam, qu'Allah vous préserve, à très vite, inshallah, wassalamu alaikum wa rahmatullah.